Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème : oublier son passé.
Ce matin, nous allons aborder un sujet. J'aime bien les choses pratiques et la Bible, la parole de Dieu est pratique. Alors, je vous invite à faire cette lecture dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 3 et nous allons lire une partie de ce chapitre et puis nous en retirerons quelques pensées qui peuvent nous amener à découvrir l'épanouissement dans nos vies spirituelles, la liberté en Christ. Et ça, c'est quelque chose d'important, de saisir cette parole dans la foi, par la foi. Donc, je rappelle Philippiens chapitre 3, au verset 1er, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Mais moi, aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair, c'est-à-dire dans la nature, dans la nature humaine. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme des pertes à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Que Dieu nous bénisse et certainement vous êtes familiarisés avec ce genre d'écriture. C'est un texte quand même majeur. Un texte que nous avons là, sous la plume de l'apôtre Paul, qui a traversé les temps et qui reste encore tout à fait d'actualité aujourd'hui et peut-être plus que jamais. Vous avez remarqué avec moi l'apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens de la ville de Philippe, dit ceci, il parle de lui, et dit ceci, « Je fais une chose ». Dans notre monde, on fait mille et une choses. On en fait beaucoup de choses dans une journée, naturellement. Mais lui, il dit, je fais une chose. Et la chose qu'il fait, c'est qu'il oublie ce qui est en arrière et il se porte vers ce qui est en avant. Alors vous allez me dire, c'est tout à fait logique, mais je ne sais pas si véritablement, nous saisissons la portée de ce que Paul nous enseigne, nous dit, et je voudrais justement apporter un commentaire là-dessus. Et ce qui fait suite, c'est qu'il court vers le but. Alors c'est vrai que, là encore, je dois dire qu'il y a tant de gens dans notre monde des chrétiens et des non-chrétiens qui n'ont pas de but. Vous l'avez vu, la vie est vaporeuse. Il n'y a rien. C'est terrible, hein. C'est terrible d'exister et de dire, mais je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas pourquoi je le fais. Alors, c'est véritablement la caractéristique de notre société aujourd'hui, hein, et particulièrement peut-être marquée par la jeunesse, et est encore d'autant plus préoccupant. Pour chacun, disons-le, Dieu a fixé un but à atteindre. D'abord, un but d'ordre général. Pour nous chrétiens, et puis un Paul le souligne, vocation céleste en Jésus-Christ. Ça, c'est ce qui doit véritablement être devant nous. Parce qu'autrement, si on n'a pas ça, alors pourquoi vivons-nous ? Quel est le sens que nous pouvons donner à notre engagement, à notre foi, à notre vie chrétienne ? Et puis, il y a naturellement des buts spécifiques, hein, par-delà. Toujours, pour nous qui sommes engagés, il y a le service, il y a le témoignage, il y a des victoires au nom de Jésus-Christ, il y a les libérations, et peut-être aussi ces deux derniers aspects, nos victoires à nous, et notre libération, notre liberté en Jésus-Christ. Alors ça veut dire naturellement bien les choses. Je voudrais simplement rappeler, et c'est de la pure logique, c'est qu'un but est toujours devant, il n'est jamais derrière. Autrement, eh bien, là, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre orientation. Ça, c'est clair. Il y a dans ces propos de Paul une exhortation à regarder devant. Ouais. Regarder devant nous, mais en se détachant ou en s'efforçant d'échapper. Je précise et je donne cette expression complémentaire, en s'efforçant d'échapper à ce que nous avons le plus de mal à nous défaire, parce qu'il y a toujours une force d'attraction, c'est-à-dire notre passé. Et c'est aussi un problème. Alors c'est vrai que on a appris beaucoup de choses par le fait de découvrir Jésus, de lui avoir laissé la place dans notre vie, mais est-ce que véritablement notre passé, notre histoire, avec tout ce que cela peut comporter, a été réellement, pleinement liquidé, si vous me permettez cette expression. Est-ce que véritablement, eh bien, tout cela, c'est fini. C'est fini, notre passé. Le mot passé évoque pour les uns des choses redoutables. Il y a des existences très lourdes, très chargées. Et pour d'autres, des choses agréables. Alors heureusement, dans notre vie, il y a les deux. Hein, il n'y a pas que cet aspect parfois difficile. Hein, nous avons des existences différentes, naturellement. Alors, je dirais qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont ce que nous pourrions appeler les mutilés de la vie. Bien involontaires, mais ils sont mutilés par l'existence. Il y a les extropiés qui rejettent leur vécu, qui ne veulent plus en entendre parler, mais où il y a quelque chose de très dur à l'intérieur d'eux. Quelque chose qu'ils n'arrivent pas à négocier, qui les choses qui les dépassent en quelque sorte, et véritablement, eh bien, ils marchent en boitillant dans l'existence. On peut dire qu'ils sont extropiés, qu'ils sont invalides. Et puis, d'un autre côté, il y a les nostalgiques, qui se bercent de souvenirs, et qui ne vivent que dans le passé, en disant, ben oui, mais c'était le bon temps, c'était la belle époque, quand j'étais jeune. Et naturellement, il y a les deux, et puis bien sûr, bien d'autres choses à côté. Souvent, eh bien, il faut bien le reconnaître, notre passé nous colle à la peau. Je prends une expression populaire et familière, mais il nous colle à la peau. Un passé invalidant, avec, que nous en soyons conscients ou non, un poids d'inertie. Parfois marqué par de fréquents états de dépression. Une paralysie morale, et qui plus est, une paralysie spirituelle, où on sent que on voudrait bien aller plus loin, on aspire, mais on ne peut pas, parce qu'il y a tellement de choses derrière nous. Tellement de choses. Et ces choses sont tellement fortes que quelquefois, eh bien, elles nous projettent plusieurs fois par jour, eh bien, à regarder toujours derrière. Vous connaissez l'histoire de la femme de Lot. Et puis bien d'autres choses comme ça. Alors c'est vrai que nous avons besoin d'être aidés. Je dirais que la parole de Dieu nous est donnée pour que nous soyons aidés. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu pour être aidé. L'église a l'escalier parce qu'on est tous venus avec une histoire. Et puis quelle histoire pour certains. Quand on entend les témoignages, on se dit, mais Seigneur, tison arraché du feu, miracle. Miracle. Donc chacun a une histoire avec une infinité de souvenirs. Il y a les bons, il y a les mauvais. Nous accumulons et constituons de formidables musées. Vous ne trouvez pas? On en a des choses à raconter. Si on rentrait dans la vie des gens, on dirait, mais des musées d'antiquité, parce qu'il y a des choses qui remontent à bien, bien longtemps. Et c'est vrai que ça se fait un peu moins, mais combien avons-nous d'albums photos hein, chez nous? Et quelquefois, ils ne sont pas dans notre bibliothèque, hein, mais ils sont au fond de notre cœur, nos albums photos. Alors, les vestiges des temps d'hier qui encombrent notre présent et qui, très souvent, éteint toute perspective d'avenir par le fait même qu'on s'y renferme. Moi, je ne sais pas comment vous êtes, mais on a naturellement des albums à la maison. Mais c'est rare quand on y met les yeux. Quelquefois, ça nous arrive. C'est les enfants, quand ils viennent à la maison, ils aiment bien se voir quand ils étaient petits. Alors, c'est toujours une partie de plaisir, parce que bon, il y a toujours des commentaires, etc., etc. Mais je veux dire qu'on n'y va pas souvent. C'est quelquefois parce qu'ils viennent, et puis ils me disent, tiens, bien, on va regarder, c'est, voilà, tout cela. Mais on ne vit pas dans cela. Hein. Vous savez, vous avez des maisons, un grenier, c'est bien. Et plus la maison est grande, plus le grenier est grand, vous savez comment ça se passe. Mais dans le grenier, c'est pas là où on vit. Il y a quand même des pièces principales qui sont certainement plus agréables que dans le grenier. Hein. Parce que le passé peut devenir une prison. Et nous le constatons dans la vie des enfants de Dieu, de mes frères et de mes sœurs. On s'aperçoit que c'est une prison. Jésus nous donne un conseil du savoir bien vivre. Parole que vous connaissez, que vous pourriez restituer comme ça, tout simplement. Il dit, mais ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez donc pas, parce que chaque jour suffit sa peine. Et je crois que le jour que nous vivons aujourd'hui, eh bien, il prépare le demain, le lendemain, naturellement, l'avenir. La peur du lendemain, le malaise du présent provient fréquemment d'un passé envahissant où l'on n'a pas su tourner la page. Il y a des choses dans notre vie, il faut prendre le livre et on tourne une page, on met une page blanche et on va de l'avant. Mais quand on est toujours autant de regarder en arrière, vous savez, dans le monde, hein, le monde commercial, administratif, tout ça, on ouvre des livres. Mais une fois que, eh bien là, le bilan a été fait, une fois que l'exercice est terminé, on referme et puis on passe à un autre livre. Parce que la vie avance, elle se développe. Eh bien, dans notre vie, il faut savoir faire ça. C'est pas qu'on va être amnésique, hein, on va se faire une piqûre en disant on ne pense plus à rien, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais néanmoins, on s'aperçoit que trop souvent, on revient. Dans nos albums, dans notre bibliothèque, on ouvre des livres qui nous font parfois plus de mal que de bien. Alors, savoir tourner la page pour laisser la place au présent de la vie, vivre en regardant devant, parce que, il faut quand même le dire, le passé déplacé tue la vie, s'il n'est plus à sa place. Et le passé ramené constamment, eh bien, n'a pas d'avenir. Parce qu'à ce moment-là, on est toujours en arrière. C'est Paul qui nous le dit. Et il a raison de nous le rappeler. Le même apôtre nous apprend à acquérir cette discipline de l'esprit qui consiste à faire le tri dans tous ces encombrements, dans ces surcharges, à raffermir notre volonté en raison de l'envahissement de nos sentiments et à maîtriser notre pensée. Et quelquefois, il faut savoir se défendre. Il faut savoir dire non. Je dis non à ceci, je ne veux plus revenir en arrière. Parce que ça me rend malade, parce que ça me fait du mal. Et quelquefois, on a des moments de faiblesse, hein, inattendus, qui surviennent. Et on a tendance à vouloir, retourner un petit peu, parce qu'on y trouve une sécurité, parce que l'avenir nous préoccupe, on ne sait pas, on est fragilisé. Alors, il y a quand même ces choses qui nous sont rappelées dans cette... parole de Paul, il y a une discipline de l'esprit, et puis de raffermir notre volonté. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Seigneur, crée en moi ce vouloir de ne pas regarder continuellement derrière moi, de ne pas m'introspecter ou de ne pas introspecter en permanence mon passé, parce que je ne vis plus à ce moment-là, et ça me blesse, ça me fait du mal. Et je vais faire des fausses comparaisons, je vais essayer d'interpréter les choses en raison de ce que j'ai vécu hier et avec un aujourd'hui qui n'a plus rien à voir. Le contexte est tout à fait différent. Et il y en a un qui s'amuse avec cela, vous savez. Il est passé maître, expert, dans le savoir retourner les braises et ne nous faire du mal. Alors moi je dis non, je veux dire non, autant que je puisse le désirer, et j'en suis conscient de devoir me maîtriser et de devoir demander à Dieu, viens, aide-moi dans ma volonté. Vous savez, nous sommes très faibles dans notre volonté, n'est-ce pas? Mais on est beaucoup plus faibles qu'on le pense. Et on se bat tous contre quelque chose, même ceux qui n'en donnent pas l'apparence. Pour certains, passé est synonyme, souvent synonyme de passif, on l'a dit déjà. Rares sont ceux qui ont été, finalement, qui n'ont pas été touchés, qui n'ont pas été effleurés, endommagés, marqués au fer rouge par la vie. J'ai toujours, et je suis toujours bouleversé lorsque, il y en a de moins en moins, mais tous ces gens qui ont été en camp de concentration dans l'enfer, et quand ils parlent, c'est quelque chose d'horrible, hein, cette vie, hein. Ils ont été emmenés, ils étaient enfants, il y en a de moins en moins naturellement, hein, par le fait que le temps passe. Mais comment peut-on vivre après? Comment peut-on vivre après avoir subi tant de cruautés, tant de misères? Mais ce sont des cas extrêmes. Mais dans nos vies, il y a aussi de grandes blessures. Il y a des enfants qui ont vécu l'enfer. Il y a des enfants qui ont vécu des violences, du rejet d'amour, hein. Et puis, toutes sortes de choses. Comment peut-on guérir de cela? Comment ne pas emmener ça toute notre vie? Et jusqu'à la fin. Et quelquefois, nous avons constaté que ces blessures de l'enfance, on les retrouvait justement peut-être jusque sur le lit de mort. Moi, j'ai accompagné des gens jusqu'au dernier moment où ils revenaient ils revenaient sur leur enfance, dont ils se souviennent beaucoup, hein, parce que ça, la mémoire, elle est très fraîche, hein, de ce côté-là. Et ils ressasser ou reparler de toutes ces blessures. C'est quelque chose. Combien notre âme enregistre les choses, notre mémoire. Alors, c'est vrai que le passé est quelque chose de douloureux lorsqu'il impose le retour constant de souvenirs d'échecs, de faillites, de chutes, d'erreurs, d'occasions manquées, de violence, de rejet, d'avoir été mal aimé, de traumatisme. Ça marque, on s'en souvient. Alors ce passé-là devient obsédant et il inspire la hantise de revivre la même chose, parce que c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont claudiquants, ils sont boitillants, parce qu'ils se disent, mais tout à nouveau, les circonstances sont là, tout à nouveau, je vais replonger dans cet enfer. Je vais avoir mal tout à nouveau. Et on comprend, hein, que quand on a été blessé, même si c'est cicatrisé, ça reste toujours fragile à l'endroit. Et souvent, c'est l'endroit de notre cœur, de notre âme, de notre pensée, de notre mémoire. Alors comment guérir? Pourquoi, Seigneur? Parce qu'il y a des choses qui sont arrivées dans la vie et on ne les a pas choisies, hein. On est victime, tout simplement. Et avec cette hantise, encore, ça va revenir. Ça va recommencer. Le passé est quelque chose d'encore plus cruel lorsqu'il rappelle le souvenir d'un bonheur disparu. Quand on était heureux et que maintenant on est malheureux. Et je pense et je compatis avec tous ceux qui ont perdu un mari ou une femme. Vraiment de tout cœur. On en a connu, on en connaît. Aux parents qui ont perdu un enfant. Ça, c'était quelque chose d'affreux. Le bonheur disparu. Et alors ce passé-là, puisqu'il a disparu et qu'il était heureux, il va en ressortir grandi dans notre mémoire, dans notre tête. Et il va devenir sacré. On ne touche pas à ce passé. Et on va rester dans ce passé. On ne va pas avancer, on ne va pas évoluer. Il y a un proverbe qui dit ceci. Il n'est pire douleur que le souvenir du bonheur au temps de l'infortune. Je le rappelle, il n'est pire douleur que le souvenir du bonheur au temps de l'infortune. Ça fait mal. Il y a le souvenir de la souffrance, mais il y a le souvenir du bonheur aussi. Quand le bonheur n'est plus là, les faits d'hier prennent à ce moment-là dans la mémoire une place exagérée que nous cultivons, que nous entretenons, parce que c'est tout ce qui nous reste. Souvenir alors malsain, voire même dangereux. Le présent se trouve absorbé par de pieuses vénérations des anniversaires quasi religieux. La Bible dénonce comme déraisonnable cette conception. Alors écoutons ce qu'elle nous dit, la Bible. Elle nous dit « Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. Ce n'est pas par sagesse que tu demandes cela. » Mes frères et sœurs, on regarde devant nous. Le passé, il est ce qu'il est. Aujourd'hui, c'est le présent. Nous sommes, eh bien là, il est 11h et quelques. Nous vivons ce que nous avons à vivre. Et l'avenir appartient au Seigneur et je veux le regarder avec des yeux qui espèrent en Dieu, des yeux qui comptent sur la grâce de Dieu. Parce qu'autrement, je ne vis plus. Je ne peux pas vivre. Regardez, le calendrier, notre calendrier que nous avons à multiples exemplaires chez nous. Le monde vit au rythme des commémorations. C'est vrai, il n'y a pas un jour, il n'y a pas quelque chose. Hein. Petite ou grande commémoration, évocation, célébration qui inspire toujours la mort, d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours eu du sang quelque part dans ces commémorations. Si je vous dis le 11 novembre, si je vous dis le 1er novembre, si je vous dis le 14 juillet, si je vous dis ceci et cela, il y a toujours quelque chose. Il y a Pâques, où là, le sang est rédempteur. Mais tout le reste, vous pouvez être sûr que... Et cela en prend des allures de pernicieuses persécutions morales. Je le dis, je le répète, hein, l'adversaire, notre adversaire est passé maître dans l'art de retourner finalement le chagrin et la douleur des gens. Avons-nous parfois les mêmes réflexes, dans certains cas, en tant qu'enfant de Dieu? Parce que le passé qui est caressé, en tous sens, c'est une forme de refus d'affronter la réalité du présent. Je me réfugie, je retourne en arrière, je regarde en arrière. La pauvre Madame Lotte, elle avait perdu sa maison, elle avait perdu ses jambes, elle avait perdu ses richesses, elle avait perdu tout ce qu'elle était auparavant. Ben oui, mais c'était un nouveau monde qui se commençait pour elle. Et Dieu veut nous faire rentrer toujours, tous les jours, dans un monde nouveau. C'est son monde à lui. C'est pas le monde de l'arrière, c'est pas le monde de ceci et cela. C'est un refus de marcher en avant avec Dieu. On a parlé d'Enoch il y a quelque temps. Eh bien, il marchait avec Dieu. Et quand il marchait avec Dieu, c'est que Dieu était devant lui. Et puis, je pense à Bartimée quand il a retrouvé les yeux, ses yeux, sa vue. Il nous a dit qu'il marchait dans le chemin en suivant Jésus. Il marchait et il regardait devant. Donc, c'est un refus de cette marche en avant. C'est un refus de nous livrer à l'aventure de la foi. Parce que c'est un acte de foi à chaque fois. De dire, eh bien Seigneur, je ne sais pas où je vais, mais je sais que là où tu me conduis, où tu me mènes, eh bien, c'est bien et ça sera bien, c'est formidable, Seigneur. Et je vais m'en réjouir. Que de fois sommes-nous tristes de regarder devant nous? La vie n'est pas facile, c'est vrai. Mais nous appréhendons, nous disons, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mais on ne devrait pas se poser cette question. Je me la pose. Mais on ne devrait pas se poser cette question, puisque le Seigneur a prévu le meilleur. Ne nous le dit pas, ne nous le dit-il pas tous les jours? Et nous le savons tout cela. L'aventure de la foi. C'est-à-dire que c'est la confiance dans ce qu'on ne voit pas encore. Et parce que je ne vois pas encore, je dois faire confiance au Seigneur. Parce que lui le voit déjà. Et quelquefois il nous dit, mais laisse-toi faire, laisse-toi porter. Abandonne tout ce qui est derrière. Tu ne peux pas passer par cette porte nouvelle parce que tu es tellement encombré. Vous connaissez l'histoire, quand il nous est dit que, pour la richesse, hein, c'est un cas particulier, c'est anecdotique, mais quand il nous est dit que, oh, combien les riches ne pourront pas rentrer dans le royaume de Dieu parce que c'est plus facile à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Vous savez, c'est pas l'aiguille de la couturière, hein, c'est l'aiguille de la petite porte, là, comme ça, hein, ça s'appelle une aiguille. Alors il faut se défaire, il faut laisser derrière nous notre passé, notre histoire, il faut se courber, il faut s'humilier, il faut devenir modeste, et à ce moment-là, on passe et on découvre un monde nouveau. Quelque chose de neuf. Vous avez envie de neuf dans votre vie ou vous voulez du vieux? Oh, vous n'êtes pas obligé de me répondre tout de suite, mais quand même. Moi, j'ai envie de neuf. D'ailleurs, je vais y arriver vers du neuf, là, maintenant. Vous savez, vous connaissez ma petite histoire. Hein. Je ne sais pas ce que ça va être. Bah, je ne pense pas aller tout de suite à l'hospice. Et d'ailleurs, je n'en ai pas envie. Mais il y a du neuf pour nous, maintenant. Enfin, il y en avait toujours, hein, il y en a toujours. Mais c'est un renouvellement. Il faut se laisser porter vers quelque chose qui... Et moi, ce que j'aime bien, c'est que si je ne sais pas où je vais, si nous ne savons pas où nous allons avec Myriam, en tous les cas, je sais que le Seigneur a préparé. Ça fait déjà en amont, nous prions déjà depuis pas mal de temps. On dit, Seigneur, tu nous prépares le chemin. Moi, je ne sais pas, mais toi, tu l'as préparé. Et je crois, et je te fais confiance. Et je le dis, je le loue, et je dis, Seigneur, ce qui va venir pour nous, ça va être quelque chose de bien. Et ce ne sera pas seulement pour nous, hein, ce n'est pas une démarche égoïste, mais pour l'Église aussi, pour les uns et les autres qui sont autour. Que ce soit une bénédiction. Parce que c'est ça la volonté de Dieu, quelque part. Alors l'histoire se répète. Vous vous souvenez de Moïse au buisson ardent? Eh oui, Dieu va se révéler. Et il va lui dire, je suis celui qui était. Non, je suis celui qui suit. Voilà. Les Hébreux dans le désert, ah, ils avaient une marche en avant plutôt rétrograde. Ils diront, ils pleureront, ils supplieront, ils vont même se mettre en colère, ils diront ceci, ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et en Égypte, ils en ont vu, de toutes les couleurs. Les espions qui sont envoyés en Canaan, ils vont venir, ah, le pays est terrible, s'il y a des géants, il y a des villes fortes, il y a des murailles, il y a des... Alors, ils avaient toujours envie de retourner en arrière. Mais c'est tellement sécurisant ce passé que nous connaissons. Il est mauvais peut-être, mais il est quand même sécurisant. Mais c'est l'inverse de la foi, de la marche de la foi. Notre passé, c'est notre patrimoine. On peut dire ça comme ça. Ce sont nos marques. C'est notre repère. Et s'accrocher au passé négatif dévie le plan de Dieu. Ce peut être même une idolâtrie. Il y a des gens qui sont devenus idolâtres avec leur passé. Ah oui, et ça c'est terrible. Parce que Jésus nous en parle dans cette façon. Il y a celui qui conservera sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi, eh bien la retrouvera. Vous ne voulez pas rentrer dans l'aventure formidable, exaltante de la foi en Jésus-Christ? Ouais. On est tranquille, hein? Il faut aller de l'avant, mes frères et sœurs. Et moi, je pense particulièrement à ceux qui sont blessés, ceux qui ont besoin vraiment de comprendre, de retrouver la confiance qu'il y a quelque chose de neuf, qu'il y a quelque chose de bon, qu'il y a quelque chose devant vous. Ouais. Et le Seigneur va vous aider, je voudrais vous le dire. Moi, j'avais à cœur de vous le dire, le Seigneur vous aime, il va vous aider. Ce sont des blessures parfois familiales, ce sont des désamours, ce sont des manques de confiance en soi-même, des égratignures, des écorchures, des blessures vives. Qui n'ont pas été traités. Et pourtant, le Seigneur a la réponse. Jésus nous dit aussi dans une petite forme, enfin une forme parabolique, il nous parle du vieil habit et de l'habit neuf. Vous aimez changer d'habit? Et vous êtes fiers? Ouais. Là, c'était les soldes, on a acheté des choses. Ma femme m'a fait un cadeau. Je suis content. Eh oui. Mais je crois que le Seigneur nous offre un habit neuf, vous croyez? Sur le plan moral, sur le plan spirituel, le renouvellement, et on est heureux quand c'est comme ça. Moi, je n'aurais pas reporté, mais mon costume de première communion, imaginez-vous. C'est vieux, hein, déjà. Vivre au présent pour assurer l'avenir, Seigneur, donne-moi de le comprendre. Dieu nous attend devant, il ne nous attend pas derrière. Paul, ne conjuguez pas à l'imparfait sa vie d'hier, parce qu'il disait ceci, je le rappelle. Ces choses qui étaient pour moi des gains, il n'en a aucun regret. On le comprend, hein? Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et là il parle au présent. Je les regarde, et j'ajoute, je paraphrase, je les regarde maintenant, je les regarde aujourd'hui comme de la boue. Et vous savez que la boue, ça colle aux chaussures. Il faut que ça soit lavé. Afin de gagner Christ, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je cours. Je cours. Il y a là une pensée dynamique quelque chose de vivifiant et de tonifiant. Paul n'était ni un nostalgique, ni un attendri, et il n'était pas le martyr, il n'était pas un martyr du souvenir. Il avait couru, je dis bien, il avait couru, et Paul, quand il écrivait aux Philippiens, il courait encore. Est-ce que nous courons encore? Est-ce que nous voulons courir encore? Vous allez me dire, je suis essoufflé. Mais le Seigneur est capable, quand il est dit ceci, qu'il renouvelle leur force pendant la marche. Si nous nous arrêtons, nous allons bien nous arrêter et nous ne pourrons plus reprendre le cours. Mais si nous continuons à marcher, si nous continuons à vouloir marcher, que nous continuons à regarder de l'avant, mais le Seigneur va nous renouveler à notre grand étonnement, parce que si nous regardons qu'à nous-mêmes, nous nous sentons quelquefois tellement là, tellement fatigués, tellement déprimés, tellement malades, alors si je regarde à cela, eh bien je n'irai pas plus loin. Mais si je regarde au Seigneur, il va me donner l'énergie pour être ce qu'il désire que je sois et que je devienne. Le Seigneur est formidable. Vous savez, tous les prédicateurs le savent. Quelquefois on monte sur l'estrade, on est en miettes. En miettes, je dis bien. Et à partir du moment où on dit, Seigneur, mais comment je vais faire ce matin? Comment je vais y arriver? Et qu'à partir du moment où on est là, on est à notre place, le Seigneur a mis quelque chose sur notre cœur, même si on ne le ressent pas très très fortement, à partir du moment où on ouvre la bouche, le Saint-Esprit est là. Et puis, non seulement la parole que nous donnons, qui va être donnée avec du bien à ceux qui vont l'entendre, mais on se fait du bien, on se guérit soi-même. Il faut avancer, frères et sœurs. Et c'est comme ça que vous allez comprendre que le Seigneur est avec vous et que le Seigneur va vous affranchir. Et il va vous faire du bien. Moi, je suis là pour vous dire que le Seigneur va vous faire du bien, il va vous bénir. Alors, notre brave Paul, il courait encore. Et son secret, on ne peut le nier quand on connaît le personnage. Pourtant, il traînait un énorme passé, Paul. Quand on connaît un passé dont il aurait pu se glorifier dans un certain sens. Quand il dit, et nous l'avons lu, parce qu'il le présente, « Moi aussi, cependant, j'aurai le sujet de mettre ma confiance dans l'humanité, dans ma chair. Si quelqu'un peut pouvoir se confier dans la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis, hébreu, fils d'hébreu, zélé, etc. etc. » Ah, c'est sûr qu'il aurait pu dire, « Mon passé, il est formidable avec ce passé-là. Alors, moi, j'ai un passeport pour tout. Hein. » Ça, c'était le côté positif. Il aurait pu s'en glorifier. Mais un autre passé qui l'amenait justement à faire l'équilibre, qui le meurtrissait justement son âme. Parce que quand on reprend 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 28, je ne vais pas vous le lire, mais il dira, mais j'ai été persécuté, j'ai été lapidé, j'ai fait naufrage, j'ai eu des ennemis tout au long de ma vie qui m'ont tendu toutes sortes de pièges, des gens déloyaux, des lâches, des gens qui ont voulu finalement eh bien, mettre un terme à mon existence pour que je ne prêche pas l'évangile. Alors ça, c'était un autre passé. Il y avait les deux, naturellement. Des souvenirs, Paul en avait, des bons et des mauvais, des terribles, redoutables. Alors pour ne pas succomber à ce poids écrasant, eh bien il dit, c'est une résolution, c'est en quelque sorte une expérience, ou un exercice de volonté, il dit, je fais une chose. Je fais une chose. C'est pas de nous disperser en faisant n'importe quoi. Mille et une choses, il le dit, je fais une chose. Il faut être déterminé, mes frères et sœurs. Parce que si nous nous perdons, si nous nous dispersons, si nous nous évaporons, il ne restera rien. On commencera tout et on ne finira jamais rien. Mais Paul le dit, je fais une chose. Je m'efforce, je transcris. Je me discipline, je ne laisse ni mon âme, ni mon esprit, ni ma mémoire, ni ma pensée envahir, je me défends de me laisser encombrer. D'ailleurs, il écrira dans 2 Corinthiens, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Seigneur, aide-nous à être conscients de ce que Paul nous dit, et puis de pouvoir le vivre. Paul veut rester d'autant plus libre qu'il se sent au service d'un autre. Ce n'est pas pour sa vie. C'est le service du Maître, service de Dieu, service de celui qui l'a appelé. Et n'a-t-il pas donné cette image? Il naît de soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. Des affaires de la vie du passé, comme de beaucoup de choses. Parce que vous savez, un soldat, Tout soldat laisse derrière lui sa vie. Il laisse ses biens et il laisse ses affections. S'encombrer de beaucoup de choses de la vie civile, pour lui, c'est peut-être signer son arrêt de mort. Vous avez vu un soldat partir sur le champ de bataille, il a son équipement militaire, mais il n'a pas ses albums photos, il n'a pas, je ne sais pas moi, son portable, et puis son ordinateur, etc. Parce que là, il va être en ligne de mire. Mais non, il a juste ce qu'il faut. Oubliant ce qui est en arrière, oublier, c'est difficile. Pas évident, mais c'est possible, seulement par la grâce de Dieu. Voilà, une question, un raisonnement pratique. Nous sommes, et nous arriverons et nous parviendrons, que par la grâce de Dieu, c'est pas par vos propres efforts. C'est pas parce qu'on va essayer de monter au ciel en disant « Seigneur, voilà ». Non, c'est parce que plus je m'abandonne et plus Dieu prend de la place, et plus je résiste, plus je me bagarre, bah, le Seigneur il dit, maintenant, écoute, tu continues à te bagarrer toi-même, et quand tu seras fatigué, quand tu seras épousé, je viendrai, maintenant je prendrai les choses. Et ça, c'est dans la nature humaine, c'est viscéral, c'est au fond de nous-mêmes. On veut y mettre finalement notre énergie, on veut montrer qu'on est vivant. Ben oui, mais justement, pour rentrer dans la nouvelle dimension, il faut être mort. Enfin, façon de parler, il faut mourir à soi-même. Comprenez le raisonnement. Oubliant ce qui est en arrière. Oublier suppose une abstraction qui nécessite forcément une compensation. Nous allons laisser quelque chose, mais il va y avoir quelque chose en compensation qui va se produire. Pour échapper à l'étreinte délétère des mauvais souvenirs, des blessures, il faut que le présent soit un présent actif, pas passif. Actif, je dis bien. Parce que quand il dit « oubliant ce qui est en arrière », et il ajoute un présent actif, me portant vers ce qui est en avant. C'est pas de rester faire du surplace, mais je me porte vers l'avant. Il y a trois positions que nous pouvons avoir, consciente ou inconsciente. C'est le recul, c'est le stationnement, et c'est la marche en avant résolue. Je vais. Je ne sais pas où je vais, mais je vais. Je vais parce que Dieu me demande d'aller. Et avec lui, je peux lui faire confiance. L'apôtre suppose l'engagement de notre foi autant que notre volonté. Nous avons besoin d'être régénérés par le Saint-Esprit dans notre foi et dans notre volonté. La volonté est quelque chose de très important pour nous, pour tous les hommes et pour nous. Sinon, la passivité va neutraliser l'action de Dieu. Je me porte vers ce qui est en avant. Voilà un choix de direction, d'orientation, de devant. Alors, la piste qui mène dans cette direction, qui mène au but, est fléchée avec cette inscription. Ouais, elle est fléchée, c'est clair dans la Bible. Et vous savez ce qui est marqué sur cette inscription pour nous montrer où est le devant, où est l'avenir? C'est dans Ecclésiaste, au chapitre 7, il nous est dit ceci. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous êtes d'accord? Vraiment d'accord? Ouais? Ça va? Vous sautez de joie pour... Ah ouais? Oui, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer devant. Et pourtant, le Seigneur nous dit, mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors, c'est vrai que quand on raisonne naturellement avec notre logique d'homme, on se dit, mais le commencement, c'était la jeunesse, c'était la beauté, c'était l'enfance, c'était ceci et cela, on avait la force, on avait tout ce qui était... Et puis la fin d'une chose, mais c'est la mort. Eh bien oui, mais avec Dieu, c'est le contraire. C'est parce que plus je vais vers la fin, plus ce qui est extérieur diminue et va disparaître, et plus ce qui est intérieur va grandir et va aller en maturité, va se développer. On est tellement influencé par le contexte de notre monde, de tout ce qui est autour de nous, c'est vrai. Il y a quelque chose d'important dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et puis, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors pourquoi elles sont-elles devenues nouvelles, tellement nouvelles, magnifiques, rayonnantes, extraordinaires, lorsque nous nous sommes convertis, et qu'après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion, On est fatigué. Et on va vers le but. Et on va bientôt toucher au but. Les choses anciennes, les choses sont devenues nouvelles. Mais il y a un principe vital sur lequel j'aimerais terminer. Je vais bientôt finir. Un principe vital qui est rappelé, c'est le renouvellement. Si nous ne sommes pas renouvelés, eh bien nous allons vivre dans le passé. Nous allons mourir sur pied. Nous allons avoir une vie médiocre, une vie rétrécie. Parce qu'il faut qu'il y ait ce phénomène de renouvellement permanent dans notre existence. Imaginez-vous si vous n'avez pas mangé depuis 3-4 mois. Un peu creux, hein? Ben oui, mais on mange tous les jours, parce que notre être physique a besoin de nous substanter. Nous avons besoin de la nourriture, parce qu'autrement, on ne va pas tenir le coup. Hein. Et bien spirituellement, moralement, c'est la même chose. Le principe du renouvellement, le principe de la régénération, ce sont des mots qui vous disent quelque chose. Le principe de la résurrection, c'est ça, hein, en quelque sorte. C'est dit, c'est décliné de différentes façons. C'est toujours Paul qui nous en parle, Éphésiens chapitre 4, verset 23, il dit: nous vous engageons à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, notre moi profond, notre entendement spirituel. C'est une nécessité, c'est-à-dire, d'abord dans notre tête, de nos pensées captives, ou de nos pensées qui nous captivent et qui nous ramènent toujours vers l'arrière. Notre cœur, c'est le siège du sentiment. Nous avons besoin d'être renouvelés dans le sentiment. Et de fermer enfin nos albums photos, parce que bon, ça va. Et nous avons besoin de tourner, finalement, les pages de cet album dont je parle, sur les chemins, sur les choses anciennes. Sans oublier qu'en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est des nouvelles pages, c'est une nouvelle page que le Seigneur veut écrire avec nous. Le Saint-Esprit, la communion avec Dieu, la foi active sont source de renouvellement et de renouvellement puissant. Je dis bien puissant, parce que le Saint-Esprit est là. Parce que la parole éclairée par le Saint-Esprit est une puissance. Ce n'est pas la lettre, c'est la vie de l'Esprit. Le mal-être que produit notre passé négatif et qui emprisonne le présent trouve sa solution dans notre façon de comprendre qui est Dieu. Qui est Dieu ? Dieu est éternel. Il est intemporel. Dieu est l'éternel présent. Je suis celui qui suis, nous l'avons dit tout à l'heure. Dieu était le Dieu de notre passé, il nous est cher, parce qu'il était là, dans nos histoires et dans notre passé, dans nos souffrances, dans nos joies. Il était le Dieu de notre passé. Et il sera le Dieu de notre avenir. Mais, il est avant tout le Dieu de notre aujourd'hui. Qui prépare nos lendemains. Il est le Dieu de notre aujourd'hui. Et il peut dire, et il peut nous l'affirmer, nous en convaincre, je suis celui qui suis. Et nous pouvons le toucher que dans l'instant. Mes expériences, c'est bien. Ce que j'ai vécu, c'est bien. Enfin, je dis pour moi. Les bonnes et les moins bonnes. Les moins bonnes, je vais en garder un bon souvenir parce que le Seigneur a été là pour m'en délivrer, me consoler, me guérir. Mais aujourd'hui, je ne peux que toucher le Seigneur, façon de parler, toucher naturellement, c'est une vue de l'esprit, mais je ne peux que le toucher dans l'instant, c'est-à-dire maintenant, ce que nous vivons actuellement. Vous vous rendez compte ? Là, nous sommes ensemble, hein, nous allons partager cette table de commémoration, nous entendons sa parole, mais c'est maintenant, Seigneur, c'est maintenant que tu es là, c'est maintenant que je veux vivre quelque chose. C'est pas demain, je ne vais pas dire demain, je te rencontrerai, je ferai ceci, cela, c'est maintenant. Alors, quelques applications pratiques avant de clore, de tourner la page, oubliant ce qui est en arrière. Peut-être certains sont touchés par l'hérédité, s'il en est, par des choses que nous travaillons à travers les générations. Oui, ça existe. Mais je ne veux pas souligner le trait, mais toujours est-il que ça existe. Et de choses dont on a hérité, dont on n'est pas responsable, de souffrances physiques, de souffrances morales et de souffrances spirituelles. Alors moi, je voudrais vous dire, si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous traînez derrière vous, que l'on appellera hérédité, hein, si vous voulez, moi, je voudrais vous dire de la part du Seigneur, c'est que Dieu délivre. Dieu délivre. Peut-être c'est un problème d'éducation. parce que vous n'avez pas peut-être eu ce que d'autres ont, et vous, ça vous met en complexe, vous êtes profondément malheureux avec ça. Mais avec la grâce de Dieu, je dis bien que cette grâce, elle corrige, et elle nous éduque, et elle nous apprend certainement beaucoup plus que nous pourrions imaginer. C'est peut-être la culpabilité. Eh bien, mes frères et sœurs, qui être toujours amenés en arrière, il y a une chaîne, il y a un lien, il y a des fers au fond de votre cœur, alors à ce moment-là, sachez, eh bien, apprenez à vivre dans la grâce, et vous allez voir combien le Seigneur est bon. La grâce de Dieu, culpabilité. Peut-être vécu un drame non guéri, physiquement, moralement, spirituellement, un drame non guéri, des blessures qui sont enfouies, eh bien, il faut parler au Seigneur. Et si vous trouvez un ami, une amie, digne de confiance, capable, eh bien, il faut en parler, il ne faut pas garder ça pour vous. Parce que parler, c'est confesser, c'est déjà extérioriser, c'est déjà expectorer, en quelque sorte. Et ça sort. Et il faut en parler. Donc, les blessures enfouies. C'est peut-être les fautes de la jeunesse, parce qu'on s'en aperçoit, pas quand on est jeune, c'est quand on commence à vieillir, on s'est dit, oui, je ne pas ça. Les sottises, aujourd'hui, non. Faute de la jeunesse et ses conséquences, parce qu'il y a toujours des conséquences, eh bien, il faut croire que Dieu pardonne. Il faut croire au pardon du Seigneur et qu'on peut recommencer. Et il nous a choisis, non pas parce que nous étions des anges, mais ça, parce que nous étions des pécheurs. Et ça, il faut croire. Les fautes non avouées, eh bien, vous lisez les premières phrases du psaume 32. Ouais, tant que je me suis tue, mon âme se consumait. Mais j'ai avoué, je suis allé voir l'Éternel, je lui ai dit, alors confessez, que ce soit un passé de solitude, les frustrations affectives, les frustrations de tout genre, les déceptions non surmontées, Dieu offre deux solutions, et je termine. La guérison. Par la bouche du grand prophète Jérémie, qu'est-ce qu'il dit Dieu? C'est une pensée qui est très forte, et je voudrais que vous la saisissiez, s'il vous plaît. Je la prends pour moi. Mais je te guérirai, dit Dieu. Je panserai toutes tes plaies, dit l'Éternel. Je te guérirai, je panserai toutes tes plaies. Ça vous fait du bien, mes frères et sœurs? Que Dieu vous dise, je te guérirai, je panserai toutes tes plaies. Dans Ésaïe, nous est dit, car les anciennes souffrances seront oubliées et elles seront cachées à mes yeux. Je sais que le Seigneur, eh bien, a tiré un trait sur bien des choses. Et moi, je ne veux pas les fouiller de ce côté-là. Ça ne sert à rien. Si le Seigneur a dit qu'il les avait oubliés, pourquoi je les remettrai en valeur? Et que j'irai les chercher et les colporter autour de moi, puisque lui les a oubliés. Elles seront, finalement, eh bien, enfouies. Et puis, s'il y a besoin de la guérison, il y a besoin d'un recentrage ou d'un recyclage au présent dans une marche résolue en avant. Et le psaume 84 nous dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Les chemins, ils sont devant. Ils sont devant moi, devant mes pieds. Et c'est Dieu qui les a déjà tout tracés. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Pourquoi les chercher midi à 14h? Pourquoi nous faire voler, nous faire ravir notre paix et notre joie? Et leur force augmente. Pendant la marche, alors mes frères et mes sœurs, je vous le dis avec un grand sourire. Alors en avant, vous êtes d'accord? On va prier quelques instants. On va demander au Seigneur qu'il nous bénisse les uns et les autres. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité, parce que ta parole est une parole puissante. Oui, nous avons tous une histoire. Nous avons tous été marqués. Nous avons tous été peut-être même formatés. Nous avons peut-être été, eh bien, Seigneur, là, nous avons reçu une empreinte. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, la véritable empreinte, l'empreinte que nous voulons avoir, c'est les marques de Christ, les marques de son amour. Et nous te bénissons et nous te remercions. Dans le nom de Jésus, bénis mes frères et mes sœurs. Oui, Seigneur, tu nous connais. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes tes fils et tes filles. Si nous sommes là, c'est parce que nous portons le beau nom d'enfants de Dieu. Si nous sommes là, Seigneur, c'est parce que nous ne sommes pas des rejetés, mais nous sommes des acceptés. Tu nous as fait rentrer dans la maison. Une maison de grâce, une maison de paix, une maison de guérison. Oui, Seigneur, je veux te remercier et te bénir. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur.
Thank you.